On nous annonçait un match très serré entre le Rassemblement national de Jean-Paul Garot et la liste socialiste portée par Carole Delga, la candidate sortante, a finalement créé la surprise en devançant le candidat RN de 17 points avec près de 40% des voix. Elle fait mieux qu'en 2015 où elle avait réussi le score de 24%. Le troisième homme du second tour sera Aurélien Pradier, candidat LR qui rassemble lui 12,34% des voix. On analyse les résultats de ce premier tour ce matin avec le journaliste Anthony Assemat, journaliste à Actu Toulouse, Côté Toulouse et La Voix du Midi. Bonjour Anthony.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Un grand merci de nous accompagner en ce lendemain d'élection dont l'autre vainqueur, Anthony Assemat, est malheureusement l'abstention, même si on a plus voté en Occitanie que partout en France.
Alors rappelons le taux d'abstention nationale qui est aux alentours de 66%. En Occitanie, on est plus sur 61%. Alors c'est un petit peu moindre, mais ça reste très conséquent. Alors le premier enseignement, vous le disiez, vous l'évoquiez déjà, c'est quand même le tour de force réussi par Carole Delga, qui quand même gagne dans un contexte de défiance politique ou autre. Gare réussit quand même à gagner 15 points en 6 ans, ce qui est quand même une grosse performance. Carole Delga qui fait l'un des scores les plus hauts d'un président sortant en France. Alors on a Xavier Bertrand qui est aux alentours de 43%, qui a fait un très bon premier tour. Valérie Pécresse également a fait un bon premier tour. Et Carole Delga fait partie de ces présidents sortants qui ont vraiment... ça a été vraiment la palme au président sortant. Alors peut-être plusieurs raisons à cela, le contexte sanitaire, la présence des élus sur le terrain, peut-être que ça rassure aussi un petit peu plus. En tout cas, voilà, Carole Delga a réussi effectivement à fédérer autour d'elle et à reléguer le Rassemblement national un peu plus loin, à 23%. Un RN qu'on voyait plus haut dans les sondages, qui était donné à 33, voire 35%, et qui perd 10 points lors de ce premier tour.
Alors sur le plateau de France 3 hier soir, Carole Delga a expliqué sa large victoire en disant que le travail avait payé, la force du collectif aussi. Est-ce que c'est suffisant selon vous pour expliquer cette avance de 17 points quand même sur le candidat RN avec lequel les sondages nous préparaient à une bien plus âpre bataille? C'est vraiment la prime au sortant. Est-ce qu'elle a bénéficié aussi de l'abstention pendant...
Alors, l'abstention, effectivement, a fait... L'abstention n'a pas été l'allié, au contraire, a été l'ennemi du Rassemblement national, clairement, puisque ceux qui ne sont pas allés voter sont plutôt des électeurs, on le voit dans toutes les régions, plutôt des électeurs Rassemblement national. Alors, à voir effectivement au second tour, est-ce qu'il y aura une mobilisation de ces électeurs-là, sachant que les électeurs, là, dans une région de gauche comme l'Occitanie, on l'a vu aussi au départemental en Haute-Garonne, eux se sont mobilisés avec des forces vives, des élus, des militants, du travail de terrain. Est-ce que le RN fera ce travail-là effectivement au second tour? Là, c'est le point d'interrogation, effectivement, d'autant plus que derrière Aurélien Pradier, donc qui arrive en troisième position avec un peu plus de 12%, sera le troisième homme dans une triangulaire, et lui, son rôle, effectivement, sera de devancer le candidat RN au second tour pour être la première force d'opposition. Voilà. Et ce ne sera pas une mince affaire.
Et oui, ça ne sera pas une mince affaire. Louis Alliot, c'était le candidat RN FN à l'époque en 2015. Il avait fait 32% au régional. On peut parler de douche froide quand même pour le RN, selon vous, Anthony Assemat?
Alors, douche froide, oui. Est-ce que le RN s'attendait à gérer l'Occitanie, la région Occitanie? On ne va peut-être pas aller jusque-là. À faire un score plus haut au premier tour, évidemment, 10 points, c'est un gap, hein, comme on dit, effectivement, par rapport à ce qui était prévu. Le Rassemblement national, effectivement, aujourd'hui, va essayer de rester la première force. Rappelons que c'était la première force d'opposition, à Carole Delga pendant 6 ans. Aujourd'hui, il va essayer effectivement d'être le plus haut possible, de mobiliser les abstentionnistes et effectivement d'essayer de faire le score le plus large. Ça reste un défi, mais voilà, pour le second tour, que Carole Delga, solo, même si elle fait une alliance avec les écologistes qui sont à 8%, et naturellement en position de force.
Finalement, Anthony Assemat, les grands perdants de ce premier tour des élections régionales, c'est peut-être les instituts de sondage qui nous avaient préparé à un tout autre scénario.
Alors le RN était attendu effectivement beaucoup plus haut, dans beaucoup de régions, évidemment en Occitanie, en PACA aussi, où le duel serré Mariani Muselier a été vécu presque comme un groupe de soulagement par beaucoup en PACA. Dans d'autres régions également, dans le Nord, Xavier Bertrand pensait être un peu plus challengé par Sébastien Chenu. Ça n'a pas été le cas, parce qu'on a quand même à peu près 20 points de différence, ce qui est énorme. Dans d'autres régions, effectivement, où le RN pensait faire des scores un peu plus importants. Donc, les instituts de sondage, effectivement, avaient été plutôt fiables sur les dernières élections. On sentait un regain d'intérêt pour les
sondages. Je rappelle quand même que à 7 jours du premier tour des élections régionales, un sondage l'Ipsos fiducial pour le groupe La Dépêche et Sud Radio annonçait Jean-Paul Garot devant, au coude à coude au premier tour, et même devant Carole Delga, ce qui s'est absolument pas produit.
Devant, ils étaient, je crois, 33 ou 35% de mémoire. Donc, effectivement, c'est 10 points. Ces 10 points, effectivement, on le voit, elles font la différence. Et à l'inverse, Carole Delga, elle a gagné aussi quasiment 10 points par rapport à ces sondages-là. Mais encore une fois, il y a abstention. La primo sortant, on sort d'une crise sanitaire aussi. Est-ce que les électeurs aussi, peut-être la peur de l'inconnu, des candidats qu'on connaît moins, il y a peut-être
abstention, primo sortant, dites-vous, finalement, c'est ce qu'on a beaucoup entendu également à hauteur du pays au niveau national, hein, puisque les candidats sortants ont été largement placés en tête. Ça veut dire quoi, Anthony Assema? C'est pas sur son bilan qu'elle a été jugée, c'est pas son bilan qui l'a hissé à la première place, Carole Delga?
Alors, dans beaucoup d'élections, il y a évidemment un programme, tous les candidats avaient un programme, mais ce n'est pas forcément le programme qui fait une élection, ça en fait partie, bien sûr. Aujourd'hui, on lit moins les prospectus, les tracts, les sites internet, les professions de foi, c'est des choses...
Mais elle avait un bilan.
Elle avait un bilan. Après, Carole Delga est aussi très présente sur le terrain. C'est une de ses forces, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas ça, mais c'est vraiment une de ses forces, effectivement, d'être très présente sur le terrain. Peut-être que d'autres candidats, effectivement, avaient une autorité peut-être de la région un peu moindre. Aurélien Pradier est évidemment très connu dans le Lot, où il est arrivé en tête, d'ailleurs.
Devant Delga.
Donc, il est très connu dans le Lot. Vincent Terrain-Ouest est connu à Balma et en Haute-Garonne, et malgré son nom de famille prestigieux, politiquement, les gens ne savaient pas trop effectivement peut-être où le situer, le connaissaient un petit peu moins, au fin fond du Gard ou de la Lozère, par exemple. Là où Carole Delga, pendant 6 ans, a sillonné les routes de la région. Donc il y a vraiment cette prime-là, peut-être à la sécurité également, et c'est ce qu'on a vu ailleurs.
Et alors, vous l'avez dit en début d'entretien, Anthony Assema, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que nous décryptons ensemble les résultats de ces régionales ici en Occitanie. Le challenge portait aussi sur la qualification au second tour du troisième homme, de celui qui serait le troisième homme. On nous avait annoncé un match entre Pradier, Terrain-Ouest, Maurice. Ça sera finalement Aurélien Pradier qui va se qualifier. Je rappelle que seuls sont autorisés à se présenter au second tour, les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour. Entre 5 et 10%, une liste peut fusionner avec une autre qualifiée. Ça sera donc Aurélien Pradier. Sacrée amère défaite aussi peut-être pour Terrain-Ouest qui ne remporte qu'un peu plus de 8%, hein.
Alors, amère défaite, oui, après bonne expérience, comme il l'a annoncé hier. Il pensait être un peu plus haut, effectivement, espérer se maintenir au second tour et que la majorité présidentielle ait des élus à la région. Ce ne sera pas le cas. Déception également pour Antoine Maurice, avec 8%. L'écologie, pourtant, a fait de bons scores au départemental en Haute-Garonne, mais en région, celui Antoine Maurice pensait être à plus de 10%, il a échoué, effectivement, à porter un projet 100% écolo. Donc c'est une déception pour lui. Alors il annonce son ralliement et son soutien à Carole Delga, mais sur la base de 8%, Carole Delga, effectivement, là aussi, est en position de force pour appliquer son programme, pour appliquer ses prérogatives et ses priorités. Antoine Maurice sera peut-être intégré à la liste.
Il a écrit effectivement dès hier à Carole Delga. Elle lui a également largement tendu la main sur le plateau de France 3. Elle a refusé, décliné toute alliance avec la France insoumise. D'ailleurs, parlons-en un peu de la France insoumise. Là aussi, grosse débâcle, grosse claque.
Alors, grosse claque, ça c'était en revanche le score qui était attendu, un peu moins de 5%. Alors, évidemment, 5%, c'est la barre fatidique pour le remboursement des frais de campagne, par exemple. C'est toujours la barre un petit peu fatidique qu'on espère atteindre. Elle n'a pas été totalement atteinte par la France insoumise. Il n'y a pas de surprise, Carole Delga ne s'attendait pas à ce qu'elle tende effectivement la main aux insoumis. Les relations entre les mélenchonistes et Carole Delga ont été orageuses pendant 6 ans, avec une grosse opposition, avec pas mal de polémiques aussi. Donc là, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. C'est plus effectivement avec les écologistes. On attend de voir le programme du second tour, sur quoi Carole Delga va amender son programme et quels élus. et qui va-t-elle prendre effectivement dans sa liste de deuxième tour. Mais c'est pour l'extrême gauche, effectivement, cette élection reste une déception, oui.
Et alors, quelle pourrait être la position? Regardons, essayons de faire un peu de politique fiction, regardons ayons les yeux tournés vers le deuxième tour, il sera la semaine prochaine. Quelle pourrait être la position d'Aurélien Pradier, donc le candidat LR?
Alors, la position d'Aurélien Pradier, bon, est très claire, hein. Bon, lui, donc se maintient évidemment au second tour, appelle à être en fait à faire à ce que les électeurs fassent de lui la première donc opposition, hein, devant le Rassemblement national de la région.
Vous dites évidemment, il n'y aura pas, il eût pu se désister à la faveur de ce fameux front républicain pour faire battre à tout prix le RN, ça ne sera pas sa position à lui, hein.
Non, parce que après le front républicain est souvent à géométrie variable. On parle de front républicain quand il y a un danger entre guillemets. Une victoire à Rassemblement national. Il aurait pu avoir un front républicain, ça ne prend pas le chemin en PACA, puisque le RN est très haut. Mais des régions comme ça où voilà, le sortant fait 39 ou là, 40% comme Carole Delga, avec une victoire du RN peut-être un peu moins attendue quand même. Là, effectivement, si le RN avait été à 40%, la position d'Aurélien Pradier aurait peut-être été différente. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc lui, il va être vraiment présent. Au conseil régional, lui, il vise également plus loin. Il a déjà dit que dans 6 ans, il serait là, il serait présent, il se représenterait même. Il est allé assez loin hier soir. Donc, il veut être dans l'opposition pendant 6 ans. Il veut se faire connaître auprès des gens et revenir dans 6 ans renforcé pour essayer de faire basculer la région. Voilà, Aurélien Pradier, ce n'est pas forcément un one shot pour lui. Je pense que politiquement, il essaye de voir maintenant beaucoup plus loin.
Et alors, est-ce qu'il va faire de l'œil, et on imagine que oui, aux électeurs de Terra Innovès?
Alors, de l'œil, bien sûr, puisque l'électorat de Vincent Terra Innovès est très centriste, centre-droit et centre-gauche. Donc, Aurélien Pradier va essayer de capter au moins les électeurs droite, centre-droit de Vincent Innovès, même si la campagne a été très, très rude et très virile entre les deux candidats. Mais les électeurs peuvent se retrouver effectivement dans le programme et dans le positionnement d'Aurélien Pradier. Ça peut être là pour le coup un vote utile contre le RN, justement pour être la première force d'opposition. Là, on peut avoir un vote utile qui se dégage clairement pour les électeurs de droite. Donc là, il va y avoir quand même un enjeu à ce niveau-là, sachant que la droite était la seconde force d'opposition pendant 6 ans. Et bon, qu'on ne les a pas trop entendus non plus, effectivement, pendant 6 ans. Donc là, l'enjeu n'est pas mince, effectivement, pour les prochaines élections dans 6 ans.
Alors, vous qui nous écoutez, si vous avez voté hier, hein, si vous faites partie des 38% des personnes à être allées aux urnes, vous le savez, il y avait deux élections en réalité hier. Il y avait donc les régionales, dont on a amplement parlé. Il y avait également les départementales. Antonia Sema, j'aimerais qu'on en dise un mot. 13 départements, sur 13 départements, 12 étaient à gauche avant le premier scrutin. Est-ce qu'il en sera de même aux sorties des urnes? Il en est de même?
Alors, nous, on a beaucoup regardé la Haute-Garonne, notamment. Sur la Haute-Garonne, effectivement, alors la gauche était déjà très, très majoritaire et a continué son travail de sape, j'allais dire, avec une élection qui lui a largement souri. Alors, sachant qu'en Haute-Garonne, sur les 27 cantons, il y aura un second tour partout, même si, certes, beaucoup de candidats ont fait des scores très hauts, comme Georges Méric, le sortant, à Escalquens et Nayou. Il aura malgré tout à faire un second tour, à Saint-Gaudens également, malgré un score très haut, il y aura un second tour. Et la particularité également, on peut voir dans les cantons toulousains, une forte poussée des écologistes. Alors là, on sent vraiment que les écologistes n'ont pas forcément perdu de terrain dans les cantons, dans Toulouse, dans la ville de Toulouse, effectivement, avec un vote écolo très important. Il y aura beaucoup de deuxième tour entre la majorité départementale PS et les écologistes notamment. Quelques cantons également où le PS fera face au Rassemblement national, mais avec un PS déjà très haut. Et un canton, on va citer celui de l'Union aussi, où c'est les candidats soutenus par la France insoumise, le maire de l'Union, notamment Marc Perret, qui est arrivé en tête de ce canton. Donc la gauche se maintient très très haut. En tout cas, on le savait déjà, hein, ce n'est pas une surprise, hein, malgré la recomposition politique qu'on voyait au niveau national, autour d'Emmanuel Macron, puis du Rassemblement national. La gauche a toujours été très haute en Garonne, et ces départementales, qui sont vraiment une des grandes élections de proximité, on va dire, confirment finalement cet état de fait. La Haute-Garonne reste encore très rose.
Haute-Garonne très rose, le seul département qui était à droite, c'était l'Aveyron. Il devrait le rester, en tout cas, il l'est resté à l'issue de ce premier tour des départementales ce dimanche. Résultat la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anthony Assemat. Vous serez avec nous également lundi prochain pour commenter le second tour des élections régionales en Occitanie. Merci à vous. Et puis, vous qui nous écoutez cette fois, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, allez voter. Merci.